Europe 1.
Quand les relations sont toxiques, elles provoquent des souffrances dont on peine parfois à retrouver l'origine exacte, le point de départ, ce jour où tout a changé. De façon insidieuse, certaines personnes ont pour seul but de manipuler, dominer et de finalement détruire. Jour après jour, la relation empoisonne celui qui en est victime et le manipulateur tisse sa toile. Les relations toxiques peuvent être aussi amicales, familiales, amoureuses ou encore professionnelles, mais elles sont toujours malsaines et destructrices. À quel moment devient-on otage d'une relation toxique? Comment vit-on sous emprise et comment s'en défaire? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Bernard. Sa route a croisé un jour celle d'un thérapeute. Il pensait obtenir de l'aide, il a plongé en enfer. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, soyez les bienvenus.
Bernard, bonjour.
Bonjour Olivier.
Comment allez-vous?
Ça va.
Bernard a été victime d'un faux thérapeute, véritable gourou, qui l'a maintenu sous emprise pendant 22 ans, le menant progressivement vers un désarroi psychique dont il ne s'est pas encore tout à fait remis, même 10 ans après. 22 années pendant lesquelles Bernard a été tenu à l'écart de ses repères familiers et de cette ville où il a grandi.
C'est la ville de mon enfance et de mon adolescence, jusqu'au bac. Donc, oui. Et j'y suis revenu il y a 4 ans, 5 ans.
5 ans.
5 ans, au moment où mon père est décédé, malheureusement.
D'accord. Vous êtes resté un moment sans voir vos parents.
Oui. J'ai basculé sous l'emprise d'une personne qui petit à petit, sans forcément que je m'en rende bien compte, m'a carrément coupé de toutes mes relations, pas simplement de ma famille d'ailleurs, mais de mes amis aussi, de toutes les personnes qui étaient précieuses pour moi et qui avaient du sens dans ma vie.
On parle de relations toxiques.
C'est un mot que je n'avais jamais utilisé, mais le fait que vous me le proposiez convient tout à fait.
Ouais.
Oui, alors avec un peu de recul maintenant, je pense qu'il y a un processus très très bien organisé ouais. qui fait que se met en place ou s'installe une emprise. Mm-hmm. Et une emprise totale, mais à partir donc de... Oui, enfin, sans doute au départ d'une entreprise de séduction, sans doute aussi un moment où, pour différentes raisons personnelles, j'étais un petit peu déstabilisé, un petit peu en difficulté, puisque j'étais juste jeune marié et puis que notre couple fonctionnait pas bien du tout.
On va aborder tout cela plus profondément le temps se gâte un peu, nous allons nous mettre à l'abri pour continuer à se parler de tout ça. Vous venez ?
Bien sûr.
Après 22 ans de vie entre parenthèses, le retour dans sa ville d'origine a été un retour à la vie pour ce consultant en management, passionné d'art et de culture.
Quand on pense à tout ce temps, 20 siècles, hein, vous me dites.
Ah ouais, c'est début de l'ère chrétienne, hein, c'est clairement c'est premières années après Jésus-Christ, je pense.
2000 ans.
Le point de départ de cette descente aux enfers est lié aux difficultés conjugales de Bernard. Catholique convaincu, il fait la connaissance de sa future femme dans un groupe de jeunes chrétiens. Mais dès les premiers mois de leur mariage, la vie à deux se révèle impossible.
Là, on a découvert qu'on était vraiment différents et objectivement, on n'a rien à faire ensemble. En plus, j'ai découvert qu'elle était terriblement jalouse, mais de façon absolument déraisonnable, quoi, ouais. Maladive. Mmh. Et du coup, elle était aussi violente, c'est-à-dire avec des agressions physiques sur moi.
Donc ça n'allait pas, quoi.
Ça n'allait pas du tout. Donc, j'étais désespéré parce que étant chrétien, vous avez compris, ouais. Étant marié chrétiennement, à l'époque, je disais, on était unis par Dieu, donc il n'y avait pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc, quelque part, il y avait cette espèce d'inquiétude ou d'insatisfaction, et de me dire aussi, j'y suis pour quelque chose, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'on les a rencontrés.
Cette rencontre fortuite a lieu à l'occasion d'un séminaire professionnel. Bernard et sa femme se laissent séduire par un couple qui affiche la plus grande bienveillance. Un couple dont la femme est une violoncelliste reconnue et dont l'homme se présente comme un psychologue de renommée mondiale. Les jeunes mariés se livrent alors sans méfiance sur leurs problèmes de couple.
On découvre, en les écoutant en tout cas, que lui est donc un thérapeute reconnu mondialement. Elle est une des plus grandes violoncellistes au monde, qui se compare à Rostropovitch, à... C'était une amie de Xifra, enfin, le pianiste, enfin, etc., etc. C'est un peu éblouissant. Mais quand on est en grande détresse, le fait d'avoir cette écoute, cette bienveillance et ce retour éminemment positif, enfin, avec des phrases du registre, mais quand même, quel dommage, vous êtes des personnes tellement extraordinaires. On sent que vous êtes des personnes tellement belles, tellement riches. Vous avez un avenir formidable tous les deux devant vous. Enfin, il y a moyen de retrouver, de restaurer la si belle personne qui dort au fond de vous.
Il y a moyen, comment ?
Voilà, donc c'est là qu'elle prend la parole pour expliquer que la thérapie de son époux est aussi, aussi extraordinaire, aussi magistrale. Voilà, et c'est là que j'entends que les gens viennent du monde entier, attendent plusieurs années, sont capables de rassembler des sommes phénoménales parce que c'est très très cher.
D'emblée, il est question de cela, de sommes importantes pour faire appel au service de cet homme.
Oui, déjà. Et en fait, quelques dizaines de minutes après qu'on soit rentré chez nous, de nouveaux coups de téléphone. Et ce coup de téléphone, c'est madame qui nous appelait en nous disant « Écoutez, on a été tellement touchés de votre témoignage et on vous a trouvé tellement extraordinaire tous les deux. Voilà. » Donc, mon mari est prêt à se rendre disponible pour vous.
Et de sauver ce mariage.
Et, oui, c'est ça. Et il nous explique à ce moment-là la démarche thérapeutique. Un agglomérat de différentes choses que je connaissais, que j'avais trouvé intéressant. Mm-hmm. Et en plus, il nous dit « Et ça marche. »
Et là, vous acceptez ?
On dit juste, merci beaucoup. Ok, on va venir.
Pour Bernard et sa femme, dont le couple paraît voué à l'échec, cette méthode thérapeutique apparaît comme providentielle. Bernard se laisse convaincre de faire confiance à ce spécialiste autoproclamé, aux théories très affirmées. Pour cet homme, toutes les difficultés du quotidien sont liées à des soi-disant traumatismes oubliés du passé. Une méthode qui fait en réalité appel à de faux souvenirs induits.
La première chose, c'est que le patient est totalement isolé. Quand on décide de faire ce qu'il appelle une session, c'est-à-dire un travail thérapeutique sur 3 semaines minimum, on s'isole complètement, c'est-à-dire on quitte son travail. Ensuite, on prend une chambre à l'hôtel, en dormant le minimum, c'est-à-dire 2 heures, 3 heures par nuit maximum. Certaines nuits, ils nous encouragent à ne pas dormir, c'est-à-dire qu'on reste 48 heures en éveil, en mangeant très très peu, et de 22h à 7h le matin, avant de venir le retrouver en séance, on plonge, c'est le mot utilisé, dans les souffrances du passé. Alors de fait, ça met aussi en situation de grande fragilité, justement, pour être influencé.
Mais il y a un détail qui accentue cette fragilité, à mon avis, c'est que vous êtes nu.
Oui, la consigne, c'est ça. On n'a rien à cacher. Et les vêtements, c'est une façade, c'est un écran avec la vérité de « il faut être nu ».
Vos souvenirs, quel type de souvenirs arrivent-ils à faire remonter chez vous et comment ?
Il nous demande de ressentir des choses douloureuses.
Ouais.
Donc, alors évidemment, quand on est allongé sans bouger pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, au bout d'un moment, il y a très, très, très mal au dos. Il y a des crampes, il y a des courbatures, il y a des tensions. Et son jeu à lui, c'est de dire, mais c'est pas maintenant que tu as mal. Regarde d'où vient la souffrance. Et là, vous êtes prêt à inventer n'importe quoi. Et sous cette pression-là, du manque de sommeil, du manque de nourriture, de l'hyperventilation qui fait un peu délirer, tu retrouves des scènes. J'ai imaginé des scènes dans mon berceau où mon père venait me secouer, me frapper.
Mais même avant votre naissance, il me semble que vous avez...
Oui. L'autre chose qu'il pratique, lui, c'est d'écraser une serviette
sur le visage, donc qui écrase le nez et la bouche. Oui. Et au bout de 30 secondes ou 40 secondes ou une minute, de toute façon, tu étouffes complètement. Tu suffoques complètement. Et son jeu, c'est de dire, ben voilà, eh ben tu es en train de revivre la naissance. Et là, le sentiment qui nous fait retrouver, c'est la haine. Si ma mère m'écrase de cette façon-là, c'est qu'elle me rejette, c'est qu'elle me hait et qu'elle veut que je meure. Voilà. Et donc, il nous fait hurler, crier, « Maman, je te hais, maman, je te hais, maman, je te hais. » Et il dit, lui, que ça va faire sortir la souffrance et sortir la haine. Et quand vous avez vécu ça pendant 5 heures, 6 heures, 8 heures, nu sur le canapé, que l'après-midi, vous passez votre temps à réécrire « Maman, je te hais, maman, je te hais, maman, je te hais », que le lendemain matin, après une nuit sans sommeil, sans nourriture, etc., il vous redit « Alors, reviens dans cette scène », au bout de 3 semaines, vous sortez et vous haïssez votre mère. Ou vous haïssez votre père. Et vous êtes... plus la même personne. Là, le problème, c'est qu'en plus, c'est moi qui fais une démarche thérapeutique. C'est moi qui ai envie de progresser. C'est moi qui ai envie d'être heureux. Donc, le piège, il est complètement fermé. Mm-hmm. Et ce qui est hallucinant, c'est que dans son jeu, dans la façon dont il raconte les trucs, il vous oblige à y croire. Aujourd'hui, je me demande encore s'il y a moyen d'y échapper.
Dans les mois qui suivent leur rencontre, le pseudo-thérapeute installe son emprise. Il prodigue ses conseils et envahit peu à peu le quotidien du couple. Sous son influence, Bernard et sa femme se coupent progressivement de leurs amis et de leur famille.
Au moment où je suis dedans, ça devient notre nouvelle famille. Et prennent soin de nous, et nous accompagnent aux concerts, et nous invitent dans leur maison en Martinique, et nous invitent... Voilà. Donc, effectivement, il y a une façade de grande bienveillance, de grande générosité. Du coup, c'est là que le rôle de mon épouse est quand même très fondamental. C'est que, comme je doutais, et comme j'allais toujours pas bien, elle me disait, mais la seule solution, c'est de revoir ce monsieur. Et donc, de solliciter des entretiens, de rédiger des comptes rendus pour décrire les difficultés. Et comme vous payez très cher, ben vous avez beaucoup de respect pour cette personne, parce que une personne qui ratisse autant d'argent aussi vite, et ben c'est quelqu'un d'important et de...
Dans l'espoir de se sentir mieux, Bernard accepte donc de nouvelles séances qui lui coûtent de plus en plus cher. À l'époque, il est consultant reconnu, mais ses revenus deviennent vite insuffisants.
Le coût horaire, c'est 320 euros. Donc, c'est 40 000 euros pour une session de 3 semaines.
Mais pour une personne
ou... Pour une personne.
Donc, cela veut dire que pour votre femme...
Ça veut dire que pour moi, c'est 40 000 euros. Pour elle, c'est 40 000 euros.
D'accord.
Parce qu'il faut que je vous dise, en plus du coût des sessions, il y avait le coût des entretiens réguliers. Et puis le coût des comptes rendus, donc rédiger des comptes rendus, chaque fois qu'il y avait quelque chose à valider, voilà, on écrivait 6 pages, 8 pages, 10 pages, 50 euros la page, ça va très vite.
Avec, je crois, quelque chose d'incroyable, des amendes pour les fautes d'orthographe.
Oui, alors ma chance, c'est à moi, je ne faisais pas trop de fautes d'orthographe, mais il y avait d'autres qui en faisaient, enfin en tout cas suffisamment, oui, 50 euros la faute d'orthographe.
Comment faisiez-vous face financièrement pour payer à chaque fois ces thérapies?
Je gagnais très très bien ma vie et j'étais toutes les fins de mois à découvert. Quelquefois, il me manquait 5 000 ou 10 000 euros à la fin du mois, alors que j'en gagnais 20 000 ou 30 000. Donc, j'ai pu à ce moment-là parler à mes parents, les mobiliser, leur dire ça va très mal, suffisamment mal pour que j'imagine faire une démarche qui peut sans doute m'aider énormément.
Et ils acceptent de vous aider?
Mon père m'a avancé une part d'héritage. Donc j'ai englouti tout l'argent que mes parents avaient mis de côté pour moi. C'est une méthode d'emprise totale, jusqu'à temps que la personne ne puisse plus financer le système. Et à partir de ce moment-là, elle est rejetée. Et j'ai plusieurs exemples. dont des exemples dramatiques de personnes qui se sont suicidées. Parce qu'il leur a dit, mais non, si tu ne peux pas payer,
c'est fini.
Voilà, c'est fini. Donc tu te débrouilles, tu choisis de faire ta vie toute seule, sans moi. Tu sais ce que vaut la vie. Si tu ne peux pas payer, c'est dégage. Et voilà.
Vous avez dépensé pratiquement 700 000 euros.
Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en 98, donc au bout de 13 ans, 12 ans, 13 ans, ma fille est née. Et j'avais tellement envie qu'elle soit heureuse et qu'elle arrive dans un couple épanoui et heureux que, voilà, ma démarche à ce moment-là, en 98, quand elle est née, a été de vouloir encore m'améliorer, encore progresser. Et donc, à l'époque, j'y croyais encore. Et j'ai refait une nouvelle démarche en 98. Et j'ai refait une nouvelle démarche en 2001 parce que ça ne marchait toujours pas. Et après, je suis resté accroché à leur emprise parce que ils me promettaient non seulement d'être heureux en couple, mais d'assurer la santé psychique de ma fille.
Sans s'en rendre compte, Bernard et sa femme vivent alors en totale dépendance de ce faux thérapeute. Ils sont rassurés par la présence autour d'eux d'une petite dizaine d'autres patients, pour la plupart médecins, avocats ou ingénieurs, victimes comme eux de manipulations. Le salut de Bernard va venir en partie de sa rencontre avec Sophie, qui elle aussi est membre de ce cercle.
Parce qu'en fait, nous, on s'est rencontrés la première fois en 95, début 95.
Chez eux, avec eux, c'est ça?
Oui.
Ça, c'est à Budapest.
Budapest, oui. Ça, c'était Noël. Ça, c'est le premier Noël ensemble. Vous étiez là? Oui, vous étiez là, oui.
Ça, c'est la Martinique?
Oui.
Putain, mais comment c'est? Ça, c'est une de celles qui m'insupporte le plus, putain. Là. L'air triomphant, là, le roi du monde. Franchement, je...
Et puis les cauchemars aussi. Moi, je reprends les somnifères, là, parce que sinon, je ne dors pas. Hein.
La chance, voilà, c'est qu'on a retrouvé du bonheur et que... Enfin, on vit, quoi.
Sophie a 49 ans. Elle est la nièce par alliance du pseudo-thérapeute, un homme qu'elle a rencontré pour la première fois à l'âge de 19 ans. À l'époque, Sophie sort d'une rupture amoureuse, sa mère vient de décéder et son père est absent. En grande fragilité, elle s'est laissée convaincre et s'est engagée les yeux fermés.
Il y a deux choses. Il y a d'abord la confiance totale que je mets en lui. D'abord parce que c'est mon oncle par alliance, parce que c'est mon père qui m'a dit d'aller le voir. Donc je ne me pose pas de questions. Quand vous faites confiance à quelqu'un, vous ne réfléchissez bien pas, sûr. Vous ne mettez pas en doute. Mmh. Donc voilà. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il disait aussi, les autres ne peuvent pas comprendre. Donc d'une part, vous ne vous posez pas de questions, et d'autre part, vous n'en parlez pas avec les autres, parce que... Il y a le sentiment aussi de l'élu, d'être un peu privilégié, d'être arrivé jusqu'à lui. D'accord. Je suis tombée dans le panneau parce que les choses se font petit à petit. Ça commence par des petites choses et pour devenir des plus grandes choses. Le fait de se déshabiller déjà en thérapie, après ça ouvre la porte à plein d'autres choses. Donc il n'y a plus de barrière si vous voulez. Vous arrivez en fin de session, vous ne réfléchissez même plus. Il m'a fait croire que mon père m'avait violée, que ma mère m'avait violée, tous les deux ensemble, que mes oncles aussi, des cousins. Et ils t'ont fait du mal, mais de toute façon, c'était tellement horrible ce qu'ils t'ont fait que si t'en parles à ton père, il s'en souviendra pas, donc c'est pas la peine de lui en parler. Mmh. Vous voyez, tout est verrouillé comme ça.
Mais il y a eu des rapports sexuels ensuite?
Oui, sous prétexte de développer mes aptitudes physiques, sous prétexte de me faire attendre le prince charmant, et ben, il s'est positionné en thérapeute sexuel, si vous voulez, mais jusqu'au rapport sexuel où je devais accourir dès qu'il m'appelait. Mm-hmm. Tout est thérapeutique, à tel point qu'il faisait payer ses rendez-vous sexuels. Il les mettait comme des temps de thérapie et je devais les payer.
Combien d'années pour combien d'argent dépensé?
Un peu plus de 238 000 euros pour 12 années.
12 années.
Bah, dès qu'on l'évoque, ça fait pleurer. Mmh. Parce que ça a été 12 années de perdu, 12 années de fausses relations, de rupture avec ma famille, avec mes vrais amis.
Alors, votre sortie de tout ça, elle s'est faite
grâce à celui qui est aujourd'hui votre mari, le père de vos enfants.
Oui. Quand il les a rencontrés, enfin, il a bien senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais il n'osait pas. Il était malin, sans du tout, tout en étant médecin, sans connaître du tout le phénomène d'emprise, etc. Il n'a pas attaqué le système en direct. Donc, il a interrogé une de mes tantes et ma grand-mère, indépendamment de moi, en disant mais c'est qui pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez de ce monsieur-là? Et l'une a dit bah, c'est un escroc, puis l'autre a dit c'est un salopard. Donc il s'est fait son avis comme ça. Et puis après, il m'a amené à m'interroger moi-même sur la question de l'argent, en me disant, mais 320 euros de l'heure, déjà c'est ton oncle, on ne fait jamais de thérapie avec son oncle, mais 320 euros de l'heure, même les plus grands psychanalystes, Lacan, etc., c'est pas possible. Et coup de bol, j'étais amoureuse, lui aussi. Donc tout ça, bah, à un moment, j'ai choisi, quoi. Au fur et à mesure des semaines, de la relation de confiance, etc., je lui ai raconté tout ce qui se passait. Donc on est allé à la gendarmerie et là, le peu qu'on a pu raconter, ils nous ont dit « Mais attendez, non, c'est trop énorme, c'est pas chez nous qu'il faut venir, il faut aller directement déposer plainte au procureur, voir un juge, enfin... »
Bernard et Sophie ont tous deux subi la même emprise, vécu les mêmes souffrances. Pour Bernard, ce sont 22 années de perdu à cause de cette relation destructrice.
Ben moi, ça fait 12 ans que je suis sortie et je suis restée 12 ans. Donc ça y est,
T'as basculé. Là, c'est...
Oui. J'ai basculé dans une période si plus longue de vraie vie. C'est top. Hein.
Parce que 22 ans d'un côté et juste 10 de l'autre, pour l'instant, ça ne fait pas le poids. Ah là là. Le fait d'avoir gagné le procès pénal, c'est déjà une étape fabuleuse. Et les deux ont été condamnés, donc ça, c'est magistral.
Même avant le jugement, je trouve que c'était déjà une reconnaissance de ce qu'on avait vécu.
C'est en 2005 que Sophie a quitté le groupe et a commencé ses démarches en justice. À la même époque, Bernard a eu un déclic salvateur qui lui a permis d'ouvrir les yeux. Il a découvert que l'homme qui abusait de lui depuis des années s'employait maintenant à manipuler sa fille de 8 ans.
Ma fille allait parler de sa sexualité, de son poutou, comme elle dit, elle l'écrit comme ça.
De son poutou.
Son poutou, son sexe.
Ouais. Une petite fille de 8 ans.
Ouais. C'est juste hallucinant ce qu'elle pouvait raconter. Elle avait déjà reconnu des attouchements sexuels de sa nourrice soi-disant. Enfin, des faux souvenirs, il n'y a pas d'autre mot. Ça, c'était un premier pas. Et voilà, et alors, j'ai pris sur moi de téléphoner à Sophie. Mais je dis, mais Sophie, c'est pas possible, quoi. C'est quoi cet embrouille? Et c'est là que Sophie m'a dit, mais avec une pudeur, une discrétion absolue, la réalité de ce qu'elle avait vécu, je découvre que finalement, ceux qui avaient raison, c'était mes parents, que mes parents ne sont pas aussi cinglés et aussi dangereux que j'ai bien voulu croire pendant 20 ans. Et puis après, j'ai rencontré tes avocats.
En tout cas, j'ai
discuté avec eux et j'ai décidé de porter plainte. Et puis je ne suis plus revenu, ni chez moi, ni chez eux. Moi, je suis sorti avec, donc brisé dans ma santé, brisé financièrement évidemment, brisé dans mon couple, enfin c'est ce qu'il en restait, mais en tout cas dans ma relation de père vis-à-vis de ma fille. Et le premier sentiment qui m'habitait quand j'ai décidé de partir, c'est la peur en fait.
La peur.
J'avais peur qu'il m'arrive quelque chose, j'avais une peur qu'il vienne me trucider.
Vous avez eu peur aussi?
Oui, au tout début, oui. Avec mon compagnon, avant qu'on se marie, oui. On s'est dit, on fait éclater le système, donc on risque pour notre vie. C'est pour ça que j'avais tout consigné par écrit, on a même fait des enregistrements, qu'on a mis dans un coffre, enfin, pour qu'il reste des traces au cas où.
Vous ne parlez jamais de colère?
Non, parce que moi, la justice est passée. C'est vrai que pendant les procès, il y a des moments où j'étais quand même très, très énervée, quoi. Mais en face, les entendre dire leurs ignominies, ouais, c'était hyper violent, énervant. Enfin, je bouillais, moi. Moi, c'est pour ça que je témoigne, c'est-à-dire que je pense que c'est très important d'informer chacun des risques et que ça peut arriver à tout le monde et qu'on peut tous avoir une fragilité à un moment ou à un autre et rencontrer la mauvaise personne au mauvais moment.
Aujourd'hui, Bernard a repris pied dans la vie réelle. Il a quitté sa femme et attaqué en justice ce thérapeute manipulateur et malveillant.
Ça, c'est moi quand j'étais tout petit.
Ben, certainement, oui. T'as pas l'air triste, et pas non plus.
Et papa non plus, il n'a pas l'air triste.
Il a renoué avec ses parents peu avant le décès de son père. Des parents qui n'ont jamais douté de lui et qui l'ont accueilli à bras ouverts.
Les souvenirs qui sont soi-disant des souvenirs douloureux de l'enfance ou de la petite enfance, bah c'est la violence de mon père, c'est l'absence totale d'amour.
On te l'a fait dire, ça ?
On te l'a oui, fait... on me l'a fait dire, on me l'a fait... On me l'a fait écrire, on me l'a fait répéter, on me l'a fait... voilà.
Il t'est arrivé de penser que tu me pesais, que j'aurais voulu me débarrasser de toi ou...
Et j'ai subi un lavage de cerveau pendant cette démarche soi-disant thérapeutique. Oui, exactement. Mais voilà, maintenant, les choses sont remises à leur place. Et le fait d'avoir pu retrouver maman, papa, bien sûr, avant qu'il ne décède... Voilà, c'est nettoyé, c'est derrière. Donc quand je l'évoque là, c'est à distance. Et finalement, d'avoir retrouvé mes parents, malgré mes 20 ans d'absence, qui m'ont réaccueilli comme si j'étais jamais parti.
Parce c'était, que les parents, ouais.
C'était vraiment un merveilleux moment pour moi.
Vous vous souvenez, Marguerite, du retour de Bernard après ses 22 ans d'absence ?
Je me rappelle très bien qu'avec son père, on se disait, de toute façon... Il y verra clair, quoi. Il,
à un moment.
Il ne va pas rester sous cette emprise indéfiniment. Mm-hmm. On avait assez confiance dans la vie et dans les richesses humaines. Uh-huh. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
J'ai toujours senti de la part de mes parents une bienveillance, oui, une confiance, malgré tout. Malgré la souffrance que je vous ai infligée.
Ah, c'est des moments pas faciles, hein.
Purée, qu'est-ce que j'ai perdu comme temps, quel dommage, quoi. Mon père était tellement heureux que je revienne. Il m'a dit, mon grand-fils, et ça m'a suffi, quoi.
À l'issue des différents procès, le faux thérapeute a été condamné à 1 an de prison avec sursis et sa femme à 6 mois avec sursis. Le couple devra s'acquitter d'une somme de 400 000 euros de dommages et intérêts pour Sophie et pour Bernard. 10 ans après, Bernard a encore besoin de se reconstruire, même s'il a enfin trouvé l'apaisement dans sa vie conjugale grâce à sa nouvelle compagne. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe 1 Studio. Réalisation, Kevin Husty. Diffusion, Héloïse Berthier. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.